Rusés, voleurs, nuisibles, solitaires et citadins, les qualificatifs ne manquent pas pour évoquer le renard rousse, mammifère prédateur à la fois pourchassé et protégé, dont la chasse d'ailleurs est toujours autorisée. Chez les carnivores, le renard roux a la plus grande répartition géographique et malgré sa mauvaise réputation, il faut lui reconnaître son rôle crucial pour les écosystèmes. C'est le dossier cet après-midi de la Tête au Carré, en partenariat avec nos confrères de la revue Nature La Salamandre, pour comprendre la biologie de cet animal à la fois familier et mystérieux, et j'attends dès maintenant vos questions, vos témoignages aussi, en nous rejoignant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Prédire les potentiels effets secondaires d'une vaccination, eh bien c'est la promesse que nous explorons à la une de la science aujourd'hui, Axel Villard. Bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, une équipe anglaise propose cette semaine une nouvelle voie de recherche pour les vaccins du futur adaptés au profil de chacun. On en parle dans un instant à la une de la science.
Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission qui a été préparée aujourd'hui par François Mercier avec Carole Sauvage.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Un prédateur familier donc dans le dossier de l'émission avec le renard roux, et pour évoquer ce mammifère, je suis avec le zoologue Jean-Steve Meillat et Julien Perrault de la revue La Salamandre. Bonjour à tous.
Bonjour.
Les deux.
Bonjour.
Bienvenue Julien Perrault. Le renard encore souffre toujours de sa mauvaise réputation. Pourquoi au fond ?
Parce qu'il aime bien croquer les poules si on oublie de fermer le poulailler, donc ouais. C'est clair que c'est embêtant. À part ça, c'est un animal, oui, qui fascine, qui dérange.
Est-ce qu'il est vraiment nuisible, à part les poules, justement ?
Alors, d'après moi, il n'est pas nuisible et on aura l'occasion de vous expliquer tout à l'heure qu'il fait bien plus de bienfaits que de dégâts.
Ouais, et c'est 500 000 renards qui sont tués chaque année, rien qu'en France,
oui,
puisque la chasse est toujours autorisée.
12 mois sur 12.
Jean-Steve Meillat, pourquoi le renard a été pendant longtemps un vecteur privilégié de la rage ? Pourquoi cet animal en particulier ?
Parce qu'il y avait une affinité particulière entre le virus de la rage et le renard. Autrement dit, le renard ne résistait pas bien au virus et donc il tombait malade et il transmettait le virus très rapidement à des congénères.
Mmh. Il transmet d'autres maladies aujourd'hui ?
Le renard peut transmettre d'autres maladies, une maladie qu'on appelle l'échinococcose qui se rencontre dans certaines régions, mais le risque de transmission, on peut le dire d'entrée, est très faible.
Ouais. Allez, le renard roux dans l'émission donc cet après-midi. On se retrouve dans un instant avec bien sûr les messages des auditeurs. Et si l'avenir de la vaccination permettait de prédire ses potentiels effets secondaires, c'est aujourd'hui à la une de la science.
Charles est l'un des trois adolescents indemnisés. Il a été vacciné en décembre 2009 contre la grippe H1N1. Les premiers symptômes sont arrivés l'été suivant.
Quand je regardais les matchs de foot, vu que je suis un fan de foot, c'est là où mes parents ont vu... Enfin, ça les a inquiétés à ce moment-là. J'ai vu que je m'endormais tout le temps devant les matchs, etc.
Le diagnostic tombe, il est narcoleptique. Il s'endort de façon irrésistible jusqu'à 6 fois par jour.
Voilà un des effets secondaires de la vaccination. Une équipe de chercheurs anglais publie cette semaine une étude d'un genre tout à fait nouveau justement dans le domaine de la vaccination. Ils cherchent à identifier les patients disposés à développer des effets secondaires après vaccination. Romain Guérardi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Centre des maladies neuromusculaires de Créteil, spécialiste des effets secondaires des vaccins. Et puis avec nous en studio, Dominique Dupin. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu. Bonjour.
Alors Dominique, justement, un mot pour commencer sur la manière dont cette étude a été menée. Comment s'y prend-on pour traquer les prédispositions aux effets secondaires d'un vaccin ?
C'est un peu nouveau parce qu'on ne s'y prenait pas avant. Et donc là, ce sont des chercheurs qui ont disposé de la possibilité d'étudier des gens qui avaient été vaccinés par le vaccin Pandemrix, qui avait été utilisé pendant la vaccination contre la grippe aviaire, enfin la pseudo-grippe aviaire. Et du coup, on a recueilli plein de données avant, après, biologiques, et les chercheurs ont essayé de matcher, de faire croiser ces données avec les effets secondaires qui avaient été constatés.
Oui, on ne le faisait pas avant, pourquoi ?
C'est une très bonne question, Mathieu.
À laquelle vous n'avez pas de réponse, vraiment ?
Non, non, non.
Alors peut-être que vous, Romain Guérardi, vous avez une réponse ?
Non, j'en ai pas. Je pense que c'est d'abord parce que c'est quelque chose d'assez difficile à mettre en œuvre. C'est des études de screening à haut débit. Il faut les technologies, il faut les prélèvements. Il y a des suivis de patients avant et après. Ce papier est très sophistiqué au plan technologique. Hein. Il y a beaucoup d'approches différentes. Donc, c'est pas anormal qu'il ait fallu d'abord se dire qu'il faut faire une recherche sur les facteurs de prédisposition aux effets secondaires avant qu'un article comme celui-là puisse être réalisé.
Et donc, Romain Guérardi, quelles sont les principales pistes qui ressortent des résultats de cette étude ?
Alors, cette étude, elle est intéressante. J'en ai pas encore fait un tour complet, mais les points qui me paraissent très intéressants, c'est que les auteurs montrent après vaccination par le Pandemrix, donc un vaccin H1N1 adjuvanté par le squalène, que il existe des modifications dans le sang circulant touchant les globules blancs et avec notamment des variations sur la lignée myéloïde, c'est-à-dire les monocytes macrophages, ceux qui vont devenir cellules présentatrices d'antigènes, et les lymphocytes B, qui sont les cellules qui vont fabriquer les anticorps. Donc ils observent ça. Le premier élément très intéressant de cet article, ça serait assez attendu qu'on trouve ces variations, mais ils observent que les variations sont très différentes, enfin assez différentes, selon l'âge du patient. Et donc ça, c'est quelque chose qui me paraît très nouveau, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que après 35 ans, la réponse immunitaire au même vaccin est un petit peu différente. Et donc ça, c'est un premier point d'intérêt parce que on a constaté qu'il y a certains effets secondaires des vaccins qui touchent plutôt certaines tranches d'âge. Et donc là, ça pourrait être un premier niveau d'intérêt. Le deuxième point d'intérêt, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de comparer le statut immunitaire et de nombreux biomarqueurs avant et après le vaccin. Et après le vaccin, en faisant la distinction entre ceux qui vont faire des complications post-vaccinales, donc c'est des complications assez standards, hein, c'est de la fièvre, de la douleur au site d'injection, des douleurs musculaires et articulaires, des céphalées, donc un cortège de complications inflammatoires sur une durée qui est malheureusement assez courte, c'est une des limites de l'étude. Mais enfin, ils font deux groupes, ceux qui vont développer des effets secondaires désagréables et ceux qui ne l'ont pas développé. Et ils s'aperçoivent qu'il y a en fait des différences. Il y a des différences dans la réaction au vaccin, mais il y a aussi des différences qui sont subtiles, hein, mais qui existent antérieurement à la vaccination.
Ça veut dire...
Donc l'élément très nouveau qui dit il y aura peut-être la possibilité de trouver des biomarqueurs avant d'être vacciné pour savoir si on est fait partie du groupe des patients qui vont faire une complication post-vaccinale.
Je vais donner la parole à Dominique Dupagne, puisque l'étude s'est intéressée aux effets secondaires qui surviennent dans les 7 jours après la vaccination. Est-ce que ce sont eux qui posent le plus de problèmes ?
Non, pas forcément, mais enfin, c'est un outil de travail, encore une fois. Rappelons que cette étude, c'est est-ce qu'on peut, par une analyse biologique, prévoir qui va faire des réactions adverses, graves ou pas, avec un vaccin ? C'est ça, le principe. Et on découvre que nous sommes tous différents devant les réactions indésirables, mais aussi différents biologiquement, et qu'on est différents en fonction de notre âge, comme l'a dit le docteur Gérardi, et aussi qu'il y a des gens qui ne réagissent pas. On a trouvé 20% de gens vaccinés qui ne développent pas d'immunité. Donc c'est quand même tout à fait fascinant de voir la diversité qu'on a face à vos vaccins.
Ouais, Romain Gérardi, c'est une étude importante au moment où la vaccination est toujours très critiquée.
Ben, je pense que c'est une des manières intelligentes que le monde du vaccin pourrait avoir pour faire face au problème des réticences croissantes de la population à se faire vacciner. Il est évident que si un travail de fond important, hein, qui sera long et difficile, est entrepris pour identifier les groupes à risque, c'est une manière de tranquilliser la population. Donc je pense qu'en parallèle, il faut travailler sur des vaccins efficaces et des adjuvants qui orientent l'immunité vers les bonnes voies des réponses immunitaires, donc pas forcément la production d'anticorps, mais aussi la production de lymphocytes T cytotoxiques, et une tolérabilité sur le long terme. Donc là, ça n'a pas été fait, puisqu'on travaille sur les 7 premiers jours. Mmh. La plupart des complications post-vaccinales arrivent beaucoup plus tard.
Oui.
Dans le reportage dont vous avez parlé, il y a plusieurs mois entre le vaccin et la survenue de la complication narcoleptique. Pour un Guillain-Barré, il y a toujours minimum 3 semaines d'incubation. Oui. Pour d'autres complications, notamment celle sur laquelle je travaille, c'est plusieurs années. Le facteur T est toujours à prendre en considération. Mais en tous les cas, c'est quand même un bon début.
Oui.
Parce qu'on peut imaginer que c'est quand même ceux qui ont une prédisposition à avoir des réponses immunitaires atypiques qui sont ceux qui vont être le plus prédisposés à faire une maladie auto-immune, par exemple.
Et puis surtout, se poser des questions, c'est toujours un bon début pour faire de la science.
Absolument. Plutôt que de faire des affrontements théologiques entre des pros et des anti, il vaudrait mieux dire il y a une question et comment est-ce qu'on fait pour y répondre avec les outils scientifiques très puissants dont on dispose.
Le but à long terme, Dominique Dupagne, c'est d'adapter le vaccin à la
la génétique de chaque patient ?
Non, mais comme le dit le docteur Gherardi, c'est répondre à des questions qui sont posées et pour lesquelles on a face à ces questions des réponses dogmatiques.
Donc, mais est-ce qu'on peut imaginer quand même effectivement une vaccination très individualisée ?
À très long terme, de toute façon, la médecine en général sera très individualisée, c'est-à-dire qu'on aura un profil extrêmement fin. Là, on connaît les groupes sanguins, par exemple, mais on peut aller bien plus profondément que ça, et que ce soit les médicaments, les vaccins, on aura des traitements qui seront adaptés à chaque personne individuellement. Ça, c'est l'avenir. C'est pas pour tout de suite, mais clairement, c'est l'avenir.
Alors, le facteur T, il existe aussi pour la méthodologie et la mise au point, justement, de ces tests, hein, Romain Gherardi, parce qu'on en a eu au tout début, et il faut patienter avant que ça rentre vraiment dans le grand public.
Il y a des années et des années de travail. Mais le travail semble enclenché. Moi, j'en ai deux marqueurs en plus de ce papier. Le NIH a fait récemment un pari financier considérable sur la médecine personnalisée, donc qui est fondée sur des approches comme celle-ci. Mmh. Et dans un éditorial paru dans le Lancet il y a quelques années, il était clairement énoncé que aussi bien la réponse en termes de protection vaccinale que la réponse au vaccin en termes d'effets secondaires potentiels, c'était les deux éléments qui rendaient nécessaires les approches de médecine personnalisée, donc par la détection de facteurs individuels de réponse au vaccin ou d'effets secondaires.
Est-ce que, Dominique, le vaccin contre H1N1 était le bon candidat quand on sait qu'il ne contient pas d'aluminium, qui est le plus critiqué des adjuvants aujourd'hui?
Oui, bien sûr, parce qu'il y avait un autre adjuvant, ce squalène, qui a provoqué des réactions indésirables, cette fameuse narcolepsie qui a été plus élevée chez les enfants vaccinés, et beaucoup de réactions locales. Et puis, comme il y avait un contexte épidémique avec toute cette campagne très dramatique, il est très porteur de crainte. Et en plus, il y a eu beaucoup de questions qui sont posées autour de ce vaccin.
Merci beaucoup à tous les deux, Dominique Dupagne, Romain Gherardi, donc sur cette publication qui vient d'arriver, pour faire autrement, justement, de la vaccination. Une nouvelle science, en tout cas, dans ce domaine. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Axel. À demain. Et puis, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'état d'urgence déclenché autour de Los Angeles à la suite d'une fuite massive de méthane dans un puits gazier. Au-delà des nausées, des saignements de nez, des maux de tête provoqués par le gaz et ses additifs, eh bien, c'est l'impact sur l'environnement qui inquiète les autorités. Cette fuite de 30 000 à 58 000 kg de gaz par heure dans l'air sera certainement dévastatrice. Le méthane possède un pouvoir réchauffant 80 fois plus puissant que le CO2 dans l'atmosphère. Selon les spécialistes, cette fuite va faire bondir de 25% la production journalière de gaz à effet de serre de toute la côte est des États-Unis. De nouvelles sources hydrothermales différentes de toutes celles que l'on connaît ont été trouvées à 2300 mètres de profondeur dans la mer des Caraïbes. Constituées de talc et non de soufre, ces cheminées connaissent une chimie différente de celle des sources classiques. N'étant pas localisées entre deux plaques tectoniques, elles sont anormalement chaudes compte tenu du fait qu'elles ne peuvent bénéficier de la chaleur du magma. Un positionnement donc curieux qui intrigue les chercheurs. Et puis l'univers désormais observable en une seule image, un chef-d'œuvre cartographique rendu possible par l'artiste Pablo Carlos Budassi qui a combiné plusieurs images de la NASA avec des cartes logarithmiques de l'univers créées par des astronomes américains. Ces cartes permettent de faire tenir l'univers dans un seul cercle compte tenu du fait que leurs échelles diminuent au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre de l'image. Le système solaire cartographié au centre apparaît donc plus grand que la Voie lactée et que d'autres galaxies géantes de la périphérie. Image très originale qui est à découvrir donc sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Et le renard roux, c'est le dossier dans un instant.
Je sais que le jour viendra où le vent se lèvera et nous serons des milliers. La nuit vous étranglera et sur vos corps allongés les roses viendront pousser. Vous vous souviendrez de moi au moment de votre souffle dernier. Vous vous souviendrez du jour où vous avez mis ma tête à couper. Vous vous souviendrez peut-être, mais le monde vous aura vite oublié. Car il se souviendra de nous si l'histoire ne nous a pas effacés. Je ne suis plus là pour témoigner, mais les roses blanches ont poussé. Les idiots ne l'emportent jamais, et le ciel a tout filmé.
Aujourd'hui c'est moi qui tombe
je rejoins l'armée des ondes, mais demain je reviendrai. J'irai danser sur vos tombes, juste après la pluie qui tombe, l'air me viendra repousser. Vous vous souviendrez de moi au moment de votre souffle dernier. Mais le monde vous aura vite oublié, car il se souviendra de nous si l'histoire ne nous a pas effacés. Je ne suis plus là pour témoigner, mais les roses blanches ont poussé. Les idiots ne l'emportent jamais.
Rose blanche et c'est Mickey 3D.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Un mammifère prédateur, donc le renard roux, aujourd'hui dans le dossier, en partenariat avec nos confrères de la revue La Salamandre, qui consacre justement un dossier dans son dernier numéro à cet animal, à la mauvaise réputation, bien souvent injustifiée. Jean-Steve Meillat, vous êtes zoologue et éco-écologue, docteur en biologie et spécialiste du renard, et vous êtes l'auteur d'un livre, Le Renard, tout simplement, qui sortira dans une nouvelle édition chez Delachaux et Nestlé dans quelques semaines. Ce sera a priori en mars prochain.
Début mars, c'est ce qui est prévu.
Julien Perrault, vous êtes le rédacteur en chef du magazine La Salamandre, revue nature qui n'est disponible que par abonnement sur salamandre.net, et Le Renard Roux avec les questions et les témoignages des auditeurs et le mot-clé, la TAC. Alors on parlait justement de sa mauvaise réputation tout à l'heure, Julien Perrault. Christophe sur Twitter demande justement si cette réputation vient du fait que le renard est opportuniste.
À mon avis, c'est plutôt une qualité, parce que c'est vrai que c'est un animal qui est persécuté depuis de nombreux siècles par l'homme, et finalement qui a toujours réussi à résister, à survivre. Et finalement, c'est un animal, je veux dire, à succès. Vous avez dit tout à l'heure que c'est le carnivore qui a la plus grande répartition au monde.
Oui.
Si c'est possible, c'est parce que c'est un animal qui a été capable de s'adapter à toutes sortes de milieux différents, des déserts glacés de la toundra jusqu'au désert, jusqu'aux montagnes, jusqu'au cœur de nos villes, chaque fois en déployant des stratégies de survie totalement différentes. Donc c'est un animal, à mon avis, à ce titre, qui est vraiment digne d'admiration.
Oui, Jean-Steve, mais il y a un animal à la fois très familier et puis toujours un peu mystérieux quand même. Hein.
Qui reste effectivement toujours assez mystérieux, discret, qui vient quand on l'attend pas, qui apparaît là où on l'attend pas, qui reste assez incontrôlable, c'est vrai.
Et des dégâts qui sont donc largement surestimés, on est d'accord là-dessus ?
La question est toujours de se poser, la question qu'il faut se poser, c'est de quels dégâts parle-t-on ?
Ouais.
Vous parlez de quels dégâts, Mathieu ?
Ben, on parlait des poules tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres. Et puis le fait qu'il ait été aussi vecteur de maladies a contribué aussi, j'imagine, beaucoup à sa mauvaise réputation.
Alors, quand
même autour de la rage, hein, ça a marqué beaucoup les esprits.
Ça, je pense que ça a effectivement beaucoup marqué les esprits. Et la réputation du renard est liée beaucoup à son rôle de vecteur de cette maladie, la rage. Mais il faut d'entrée préciser et rassurer nos auditeurs, cette maladie n'est plus présente dans nos régions. En Europe de l'Ouest, en France, en Suisse, plus d'inquiétude à avoir de ce point de vue-là.
Ouais. Alors, combien d'espèces, Julien Perrault, de renards? Parce que là, on s'intéresse au renard roux.
Oui, alors à peu près 15
espèces. C'est le goupil, c'est le fameux goupil.
C'est le renard qui a donc la plus grande répartition au monde. À peu près 15 espèces.
15 espèces, d'accord.
De canidés qui popent différents milieux. Il y a évidemment le fennec dans les déserts, le renard polaire qui souffre déjà maintenant du réchauffement climatique.
Ah oui, apparemment. Oui.
Et puis quelques autres espèces, notamment en Amérique.
Ouais, donc c'est un animal qui s'adapte à des climats aussi assez différents, Jean-Steve Meillat ?
Oui, un animal qui s'adapte à toutes les régions, à tous les milieux, à tous les climats, à toutes les températures. Vraiment un opportuniste magnifique.
Lise demande, est-ce que justement le renard a un lien avec le loup et comment se passe leur rencontre? Alors là, si on remonte dans le temps, justement, ancêtres communs.
Alors, ils ont un lien de parenté étroit, parce que des cousins, c'est des canidés. Le renard est un canidé qui est un peu plus proche de la famille du chat, des félidés, mais enfin, c'est quand même un vrai canidé. Après, la rencontre sur le terrain, moi j'ai un ami qui, une fois, observé un renard dans les Alpes, et puis tout à coup, il a vu le renard détaler comme une bombe, et puis sur la clairière, au bord de la clairière sur laquelle était ce renard, il a vu apparaître un loup. Donc manifestement, le renard avait une peur bleue du loup.
Ouais.
Et je pense qu'il doit se faire manger à l'occasion.
Ouais. Conséquence du dérèglement climatique, et nous dirons, le renard roux justement remonte vers le nord et concurrence le renard polaire. Est-ce qu'on est déjà dans un affrontement des deux espèces, Jean-Steve Meillat ?
Oui, un affrontement indirect. Donc le renard s'installe et va consommer les mêmes proies, va occuper les mêmes emplacements. Effectivement, le renard polaire a de quoi se faire du souci.
Ouais, donc c'est une menace pour le renard polaire. Ça veut dire qu'a priori, c'est le renard roux qui aura le dessus dans ces changements liés au climat.
Probablement, parce qu'il est plus costaud, il est plus adaptable, donc il est moins sensible. Oui. Que son cousin, le renard polaire.
Ouais. Et puis, il y a même une menace directe, puisque cette année, on le mentionne justement dans ce numéro de la Salamandre, la photo qui a eu le grand prix du concours le plus prestigieux de la photographie animalière, qui est une image très impressionnante, qui a été prise par un photographe amateur canadien qui a vu un renard roux chasser et tuer un renard polaire et qui a fait une photo où on voit justement le renard roux avec dans la gueule le renard polaire, qui est une image qui est vraiment malheureusement emblématique de notre époque.
C'est ça.
Comme un renard qui en chasse l'autre.
Avec un phénomène plutôt nouveau donc, et une confrontation effectivement qui n'existait pas auparavant et à laquelle il faudra probablement effectivement s'habituer. L'actualité, Julien Perrault, du renard, c'est quoi? C'est la reproduction en ce moment?
Ben oui, quand on choisit de consacrer un numéro à un animal, c'est souvent parce que c'est la saison des amours chez la bête en question, ouais. Évidemment. Alors les renards, ils font l'amour en hiver.
Et pourquoi d'ailleurs?
Parce que le timing, la gestation dure à peu près 53 jours et le timing probablement est calé sur le printemps, sur le moment où il y a le plus à manger. Donc les amours ont lieu en plaine, c'est souvent en janvier, à la montagne, parfois un peu plus tard, en février. Et voilà, les amours des renards, ça anime les longues nuits d'hiver parce qu'on les entend gueuler partout. On peut parfois les observer.
Ça fait beaucoup de bruit? Quand ça copule,
oui, ça peut faire pas mal. Alors, moi, j'en ai jamais vu copuler, mais j'ai souvent dans des affûts, la nuit, en hiver, on les entend beaucoup, on les voit, ils se déplacent énormément, les mâles franchissent des grandes distances à la recherche de femelles, et puis il y a des fois des interactions entre mâles, entre femelles, etc.
Il y a une photo d'accouplement, Jean-Steve Meillat, dans votre livre.
Oui.
C'est un cliché rare?
C'est un cliché assez rare, effectivement. Ouais. Mais
pourtant, ça dure longtemps.
Ça dure longtemps, mais ce sont deux animaux qui ont une taille, somme toute, assez petite, qui vont pas nécessairement s'accoupler devant tout le monde, en plein champ, mais peut-être en lisière. Donc il faut déjà tomber sur l'événement. Ça dure un certain temps parce qu'effectivement, comme c'est le cas chez les chiens, les deux animaux, le mâle et la femelle, ne vont pas se séparer tout de suite. Ils vont rester crochés l'un à l'autre.
C'est ça. À cause du pénis du mâle, hein.
Effectivement, à cause du pénis du mâle qui, une fois qu'il s'est gorgé de sang à l'intérieur... du vagin de la femelle, ne va pas pouvoir ressortir tout de suite.
Ce qui fait que ça peut durer combien de temps, cette petite affaire?
Ça peut durer plusieurs dizaines de minutes. Et on peut même voir, ça m'est arrivé une fois, un individu essayant de tirer l'autre dans une des directions et l'autre essayant de tirer le congénère dans l'autre direction.
Ouais.
Ça donne quelque chose d'assez comique.
Est-ce que ça procure un avantage particulier, justement? Le fait de rester comme ça très longtemps accroché à la femelle?
Oui, probablement. Je crois me souvenir qu'il y a même un certain nombre de phénomènes physiologiques qui vont se déclencher chez la femelle suite à cet accouplement prolongé.
Voici un extrait d'un DVD justement, Julien Perrault, que vous avez produit, un film d'Anne et Éric Lapier qui s'appelle Le Bel Opportuniste.
Justement, oui.
La renarde est capable de régler le nombre de ses embryons en fonction de la nourriture disponible. Il y a quelques années, sur ce territoire, une surpopulation de rongeurs avait permis une portée de 8 renardeaux. Mais depuis 2 ans, les campagnols sont moins nombreux. C'est pour cette raison qu'il n'y a eu que 4 petits ce printemps. Après avoir musardé quelques semaines chacun de son côté, le couple dominant se retrouve en octobre. L'hiver approche. 3 jeunes renards en plus des parents sur le territoire, ça commence à faire trop. Le temps de la dispersion a sonné.
Voilà, avec des images qui ont été réalisées uniquement avec des animaux libres et sauvages. C'est important de préciser, parce que souvent dans les documentaires animaliers, les animaux sont choisis pour des raisons particulières. C'est qu'ils ont l'habitude de rencontrer les hommes.
Oui, alors c'est pas le cas des films que produit La Salamandre. Et ça, c'est vraiment un très beau documentaire qui va vous emmener en montagne, découvrir toute la vie d'une famille de renards au fil des saisons. Donc il est aussi disponible sur salamandre.net. Et il a été filmé par un couple de cinéastes français, Anne-Éric Lapier, qui ont fait vraiment un travail magnifique sur plusieurs années.
Sur de longues années, hein, c'est ça. Parce qu'il faut être très patient aussi quand on veut filmer les renards. Lorsqu'il y a un groupe, justement, avec plusieurs femelles au moment donc de la reproduction, comment le mâle fait son choix exactement, Jean-Steve Meillat ?
Le mâle va probablement essayer de s'accoupler avec les différentes femelles.
Il va toutes les choisir ?
Il va profiter, disons, de toute femelle disponible et disposée à s'accoupler dans son secteur.
Ouais. Il y a une femelle dominante dans tout ce groupe
Alors, dans un groupe familial, il y a une femelle dominante qui est en principe la seule qui arrive à se reproduire. Parce que si vous avez suffisamment de nourriture et si vous avez d'autres adultes qui vivent en compagnie du couple principal... En général, les femelles, soit elles n'arrivent pas à s'accoupler, soit si elles s'accouplent, elles ne donneront pas de jeunes, soit même si elles donnent des jeunes, souvent ceux-ci seront tués. Donc en général, il n'y a qu'une seule, portée de renardeaux. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est généralement le cas. Mais même dans ce cas, les renardeaux, souvent, ils ont plusieurs papas, justement.
Allez, Thomas nous dit, j'ai la chance de vivre à Berlin. On croise régulièrement de superbes goupilles. Il y a tout à Berlin. Il y a du sanglier, il y a du renard en ville. Hein. On peut les voir dans la rue, vers les poubelles. On passe furtivement, mais aussi dans les parcs tournant autour des lapins, très nombreux la nuit. Le citadin que je suis s'émerveille à chaque fois. Voilà, un message qui vient d'Allemagne.
Ben oui, il y en a dans toutes les villes aujourd'hui. Il faut dire aussi que les villes ont grandi et que où il y avait des villes autrefois, il y avait de la campagne. Donc finalement, les renards sont aussi restés. Hein.
C'est nous qui sommes au fond sur leur territoire.
Exactement.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de ce dossier consacré aux renards roux et vos messages sur franceinter.fr. Heavy words, little lies, telling everything but the truth, the truth. Time overheard and overused, used. No sweet.
So I could spend it all.
Très vite rassuré, Chanteclerc oublie son rêve et retourne à son tas de fumier. Et le voilà qui de nouveau se met à sommeiller. Mais Renard, lui, ne dort pas. Il rampe, sans faire un seul bruit, s'approche du coq endormi. Sans plus attendre, se jette sur lui. L'air s'obscurcit de poussière, de paille et de boue. À 2 kilomètres, on entend des glapissements et des cris. Renard a sauté trop vite. Le coq bat des ailes, bondit sur ses ergots. Au prix de douloureux efforts, il a plongé sur le côté et grimpé sur la première branche d'un arbre.
Et la voix de Jean Rochefort, bien sûr, extrait du roman de Renard, pour parler de cet animal avec Jean-Steve Meilla, zoologue, et Julien Perrault, de la salamandre, alors croqueur de poule. Et un mot quand même sur l'origine du nom Renard, parce que ça vient directement du roman de Renard,
bah oui,
avec un T, un renard avec un T.
C'est rigolo parce qu'en fait, le mot en latin c'est vulpes, on devrait dire goupil.
Ouais.
C'était le mot qui était dérivé de ce nom latin. Et au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est qu'il y a eu justement une histoire, enfin, qui a été écrite par plusieurs personnes, avec plein d'épisodes, ce fameux roman de Renard.
Des histoires animalières. Hein.
Voilà. Mais justement, Renard, c'était un nom propre.
C'est ça.
C'était
un des héros.
Voilà, c'était un mot, un prénom comme Renaud ou Reinhardt, qui veut dire plutôt le rusé. Et en fait, cette histoire a tellement marqué les esprits que petit à petit, on a pris le nom du héros pour désigner l'animal.
C'est ça.
Et que finalement, le mot renard est entré dans la langue française. Et goupil, finalement, c'est resté un peu un nom. C'est devenu du coup un nom familier pour l'animal.
C'est
et on
ça.
lui donne même une majuscule. Donc
et
il y a vraiment eu un renversement.
Renard roux, hein, dont
voilà,
on parle avec
exactement.
Vous cet après-midi. Jean-Steve Meilla, cette question de Charles. Est-ce que le renard vit exclusivement en solitaire, à la différence des loups qui, eux, vivent en meute?
Non, comme on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, le renard a une vie sociale. Pour
ouais.
autant que les conditions du milieu permettent à plusieurs individus de partager une certaine zone, alors il va se mettre à former des groupes familiaux sur le modèle du loup. Et c'est resté longtemps méconnu parce que, en fait, cette vie sociale reste discrète. Le loup, typiquement, chasse en groupe parce qu'il chasse de grosses proies, des cerfs, par exemple, alors que le renard chasse de petites proies. Et pour chasser des petites proies, on n'a pas besoin d'être plusieurs.
Ouais.
Et donc cette vie sociale qu'on a découvert au début des années 2000, on la connaît de mieux en mieux et on sait.
Oui, donc c'est récent. Hein,
oui, ouais. C'est assez récent.
Il y a une hiérarchie très établie donc au sein du groupe.
Il y a une hiérarchie qui semble établie de manière plus ou moins lâche selon la proximité des individus. Dans les études qu'on a fait en captivité ou en semi-captivité, la hiérarchie était très marquée. Dans les zones naturelles, je pense, les observations montrent que la hiérarchie est beaucoup moins marquée. Mais on a quand même, classiquement, un couple reproducteur qu'on appelle les alphas,
ouais.
et des individus subalternes, qui, eux, ont un accès à la reproduction, comme on l'évoquait, moins important.
Alors, qu'est-ce qu'ils chassent, qu'est-ce qu'ils mangent, à part les poules, justement, Julien Perrault, notre renard? Alimentation assez variée.
Oui, alors faut peut-être rappeler que le renard, c'est pas un gros animal. Hein. Un renard, en gros, vous prenez un chat, vous rajoutez une longue queue, ça
ouais.
fait un renard. Hein. Donc il faut
gros qu'un chat quand même, non?
À peine. Il faut pas fantasmer et puis imaginer qu'il va aller manger des chevreuils ou des agneaux ou même des lièvres adultes, sauf circonstances complètement exceptionnelles.
Mais là aussi sur les agneaux, c'est une réputation qui lui colle à la peau quand même.
Ben oui, parce qu'il consomme les placentas, il peut consommer des agneaux mort-nés, mais voilà, effectivement, là, du coup, la réputation, cette réputation lui colle à la peau. Mais en fait, son régime alimentaire dépend de toutes les circonstances. C'est extrêmement variable. Classiquement, chez nous, dans les campagnes, la proie principale, c'est les campagnols. Donc,
oui,
un
ça,
renard qui mange plusieurs milliers de campagnols par année, ben, on devrait le féliciter plutôt que de lui tirer dessus, parce qu'en fait, il rend un très très grand service à l'agriculture.
Ouais, justement, Viron nous dit, s'il n'était pas chassé et détruit, le renard pourrait être un excellent prédateur des campagnols terrestres. Pourquoi son rôle de régulateur n'est-il pas plus utilisé? Deux départements français protègent le renard, dont la Savoie. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en France, en fait, le renard peut avoir deux statuts. Il peut être nuisible, terme à mon avis assez largement moyenâgeux, ou chassable. S'il est chassable, on peut le tirer 7 ou 8 mois par année. Pourquoi pas? S'il est nuisible, eh ben c'est autre chose, parce qu'on peut le tirer jour et nuit, 12 mois sur 12, comme je le disais au début de l'émission. Et en plus, on peut le piéger, ce qui n'est pas une pratique que je trouve très... très recommandable parce que l'animal va agoniser pendant 11 heures. Ouais. Ou même, on peut aller le déterrer avec des chiens et des engins,
dans son terrier directement.
Même en pleine saison de reproduction. Donc c'est vrai que ce statut de nuisible, il a des conséquences très fortes pour l'animal. Et alors pas par rapport à sa démographie, parce que les renards se reproduisent bien, ils arrivent toujours à survivre à ça en tant qu'espèce. Mais je trouve que c'est vraiment pas... Enfin, personnellement, une bonne chose. Et en fait, le statut entre les deux dépend, c'est les préfets qui décident dans chaque département en fonction des relevés de dégâts qui leur sont faits, mais qui ne sont pas du tout contrôlés de manière scientifique. Mm-hmm. Donc, c'est assez facile de rajouter des charges sur le renard. Et du coup, effectivement, il n'y a que en Savoie, en Corse et je crois en Île-de-France, que le renard est chassable, mais pas nuisible. Partout ailleurs, il est considéré comme nuisible.
Jean-Stéphane Meillard.
Et pour répondre très concrètement à la question de notre auditeur, je crois qu'il y a un conflit d'intérêts dans cette affaire. D'un côté, on a des gens qui souhaitent chasser le renard parce que c'est leur activité de délassement. Et de l'autre, on a des agriculteurs qui aimeraient justement favoriser une espèce qui diminue les dégâts faits aux cultures. Et ces deux idées s'opposent. Et pour l'instant, il faut reconnaître que la chasse l'emporte dans ce genre de décision. Il faut aussi dire que malheureusement pour le renard, il a un effet sur la diminution du nombre de campagnols, mais il n'est pas suffisant.
Pourtant, il en croque beaucoup. Hein.
Il en croque énormément.
Un seul individu peut en manger combien à peu près par an? On a une idée?
Oh, énormément.
Je crois que c'est entre 3 et 5 000, non?
Ah oui, ces chiffres-là me paraissent tout à fait possible. Ouais. Mais ça ne suffit pas lorsque les campagnols sont extrêmement nombreux dans les champs à les limiter complètement. Et ça joue peut-être aussi un petit peu en sa défaveur.
Ouais. Ouais. Ce que je voulais juste rajouter par rapport à ça, c'est que le renard soit chassé, bon ben voilà, c'est comme ça. Ça. Mais moi, disons, ce que je déplore justement, c'est cette espèce d'acharnement dont il est victime 12 mois sur 12. Et par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une association en France qui se bat justement pour que le renard, mais qu'aussi d'autres animaux comme le blaireau, comme la fouine, comme l'hermine, ne soient plus si facilement classé comme nuisible. Oui. Cette association, c'est l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages. Et je pense qu'il faut aller sur leur site internet, il faut s'inscrire chez eux, il faut les soutenir parce qu'ils font un travail magnifique.
Il faut réhabiliter le blaireau.
Mais oui.
C'est important.
Mais oui, c'est le Moyen-Âge d'aller déterrer les blaireaux.
One, two, man. One, two, three. One, two. One, two, three, four. Je veux cette fille. Cette fille qui était avec moi. Je veux cette fille, comprenez-moi. Quand je suis entré avec elle, elle avait un petit coup dans l'aile. Et maintenant je ne sais plus, je ne sais pas. Où est cette fille, seule fille qui était avec moi. Quand on s'est pointé dans cette boîte, il y avait l'ambiance genre roule de gare. Les frangines avaient la peau moite, tous les mecs nageaient dans le coltard. Au type qui flippait dans l'entrée, j'ai dit hey, tu l'as pas vu passer mec? Et comme cet abruti me répond mais cette fille, seule fille qui était avec moi. Oh, t'énerve pas. Cette fille qui était avec moi. Oh, oh. Mais les gars, je veux cette fille qui était avec moi. Oh, je veux cette fille, trouvez-la moi. Je vous préviens que si elle n'est pas là d'ici un quart d'heure, je fais un malheur. Oh, je veux cette fille. Je ne connais même pas.
Hey, dis donc, qu'est-ce qu'il veut, ce type? Qu'est-ce qu'il a?
Oh, t'occupe, hein. Retourne au bar. Allez, dégage. Il veut cette fille. Cette fille qui était avec lui. Il veut cette fille. Cette fille. Trouvez-la, lui. Hey, attention au break.
Mmh.
ok, mais cette fille, cette fille, ce soir est dans son lit.
Et Jacques Higelin.
La tête carrée. Sur France Inter.
Le renard, Jean-Steve Meillat et Julien Perrault sont nos invités. Le renard qui fait la une de la revue des curieux de nature, la salamandre, salamandre.net, si vous souhaitez vous abonner pour découvrir le renard roux donc ce mois-ci. Avec beaucoup de questions des auditeurs, tiens par exemple Jean-Steve Meillat, cette histoire de contamination par l'urine de renard, on est nombreux à penser qu'il ne faut pas ramasser les petites baies ou faire très attention avec les myrtilles par exemple, parce qu'on peut avoir des maladies transmises par le renard. C'est vrai ou pas? C'est une question de Luc Marie.
Alors l'échinocoque, donc qui est un petit ver qui peut que le renard en fait libère dans le milieu avec ses excréments, donc ce sont bien les crottes
et non pas l'urine,
de renard et pas l'urine, donc ne se trouve pas dans l'urine. Ce qu'on doit absolument éviter, c'est de manipuler des renards qui porteraient cet échinocoque, donc un cadavre qu'on trouverait ou même un petit renard. D'ailleurs, on profite de dire aux auditeurs que les animaux sauvages, il faut éviter de les toucher, éviter de les prendre chez soi. Éviter de toucher le renard et puis éviter de toucher des crottes de renard qu'on aurait trouvées dans son jardin, par exemple. Donc, les manipuler seulement avec des gants, un petit plastique et ne pas entrer en contact avec ces crottes.
Donc, a priori, moins d'inquiétude que nous le dit la légende populaire sur l'urine, sur les
baies. Pas d'inquiétude parce que le parasite est dans l'intestin et donc il ne va pas passer par le système urinaire.
Agnès nous dit, habitant un village près de Besançon, les renards sont tués parce qu'ils sont dits vecteurs de la gale. J'aimerais avoir votre avis sur la question.
Alors oui, les renards souffrent, c'est eux déjà qui souffrent le plus de la gale parce qu'il en meurt beaucoup à cause de cette maladie qui avait quasiment disparu au moment où il y a eu la rage, qui est de retour chez nous. Mais en même temps, pour l'être humain, il n'y a aucun souci. La gale, elle peut être transmise à des chiens, mais c'est très facile à traiter. Je dirais que c'est surtout les renards qui souffrent de la gale. Donc il n'y a pas de raison de les éliminer pour ça.
Jean-Sylvain Meillat, l'espérance de vie du renard, c'est terriblement court quand même.
Comme tous les animaux sauvages dans la nature, c'est court. Et chez le renard, c'est particulièrement court parce qu'il est souvent victime du trafic ou de la chasse.
Ouais. Donc c'est quoi, 3 à 4 ans en moyenne?
3 à 4 ans
dans la nature.
Dans la nature, dans les régions campagnardes, on va dire. En ville, on a des chiffres même plus bas. Donc on a des chiffres de villes britanniques dans lesquelles les renards atteignaient tout juste une année.
Ouais. Morgane nous dit, j'habitais un temps à Londres, justement, dans un quartier très vert. J'ai rencontré de nombreux renards le soir en rentrant chez moi. Pourquoi les grandes villes de France ou de Suisse n'ont pas de renards? Est-ce un signe de pollution? Alors, non pas où on peut de renards, on devrait dire plutôt.
Oui, parce que les villes de France et de Suisse ont des renards, ça c'est tout à fait clair. Mais peut-être qu'il est un petit peu moins présent que dans d'autres villes qui sont plus favorables. C'est les villes qui ont passablement d'espace vert, où les renards peuvent aller passer tranquillement la journée et sortir la nuit. Et les villes britanniques, on parlait de Berlin tout à l'heure, sont des villes effectivement avec beaucoup d'espace vert, ce qui n'est pas le cas d'une ville comme Paris, qui a été colonisée par les renards plus tardivement que d'autres villes.
Véronique nous dit, est-ce une croyance ou la réalité de penser que le renard attaque et tue son cousin le chat? Je ne sais plus si vous avez répondu à cette question tout à l'heure, Julien.
Non.
Il y a des attaques sur les chats
pense ou pas? Je pense que le chat est une proie dangereuse pour le renard. Mais...
Ah bon?
Ben non, je veux dire, il ne va pas le tuer, mais j'entends avec ses griffes, je ne sais pas.
On n'a jamais assisté à une attaque de chat et de renard.
Deux, trois fois les interactions, mais il me semblait qu'ils s'évitaient plutôt. Je ne sais pas, toi, Jean-Steve.
Oui, tout à fait. Alors, les observations que j'ai faites, et qui sont quand même suffisamment nombreuses, puisque je travaillais dans une région où il y avait pas mal de chats de ferme, montrent que les animaux, d'abord, cherchent à s'éviter.
D'accord.
Ensuite, lorsqu'ils se rencontrent, on hérisse le poil, on se fait le gros dos et on se quitte.
Oui.
Et puis, de temps en temps, un renard passe par là et voit des petits chatons encore relativement faciles à attraper.
Et là, il les croque.
Et là, il les croque.
Oui. Alors, est-ce qu'il impressionne le chat avec ses cris, justement? Parce qu'il a une jolie gamme vocale, le renard, hein?
Il crie passablement, notamment durant la période de reproduction, où ils s'appellent les uns les autres. Et lorsqu'ils jouent ensemble, par exemple, si on a la chance de voir des renards d'eau terriers, il y a des petits sons... D'ailleurs, sur le site de la Salamandre, il y a un joli petit fichier que les auditeurs peuvent aller écouter, où on a le répertoire des cris du renard.
Voilà, pour endormir vos enfants le soir, bercez-les avec les cris du renard.
C'est de saison, hein.
C'est plutôt à faire froid dans le dos, quand même.
Pour leur faire vivre la reproduction du renard. Justement, la communication entre ces animaux, c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de sens qui sont utilisés aussi, Julien Perrault, hein.
Oui, alors on parlait de l'urine des renards. Ce qui est rigolo, ce que j'expliquais l'autre jour à mes enfants, c'est que nous, quand on a la vessie pleine, on la vide d'un coup, quoi, en principe. Le renard, il fait tout le contraire. C'est-à-dire que 4 ou 5 fois par kilomètre, il fait un petit jet d'urine.
Ah oui.
Et que ça, justement, ça participe à sa vie sociale. On a longtemps...
Il communique par le jet d'urine.
Alors, il communique par le jet d'urine que ce jet d'urine est accompagné d'une sécrétion odorante qui indique évidemment son identité, mais qui indique aussi son état physiologique. Et en fait, les renards, même si, comme tu l'as dit avant, ils se rencontrent, ils sont moins souvent ensemble qu'une meute de loups, mais en fait, ils sont sans arrêt en contact les uns avec les autres, en particulier par les odeurs.
Et ils se reconnaissent par leurs signaux vocaux aussi, Jean-Steve Meillat ?
Probablement, oui. Ils se reconnaissent à l'odeur, au son, effectivement.
À quoi leur sert cette queue donc assez volumineuse ?
Elle a plusieurs fonctions, notamment une fonction de balancier dans les déplacements, et notamment lorsque le renard fait ce superbe saut de capture de rongeur que certains ont peut-être déjà pu observer dans les champs.
Et qui porte un nom particulier d'ailleurs.
On dit que le renard mulotte.
C'est ça. Ouais.
Alors qu'il capture des campagnols, le mulot étant plutôt un rongeur forestier. Mais on dit qu'il mulotte. Donc la queue va servir de balancier dans les déplacements, lors de ce saut. Elle va aussi servir dans les relations sociales. Donc la position de la queue indique si l'individu est plutôt en position de dominant par rapport à un individu subordonné. Mmh. Et puis, certains disent que l'extrémité blanche de la queue serait aussi utilisée pour attirer en fait les jeunes renardeaux et les emmener lorsque, par exemple, la femelle change de site de reproduction.
Reportage autour de la chasse aux renards dans l'Aube, reportage de 2010.
C'est une chasse unique en France qui débute. Gilles Naudin vient des Vosges. Il a habitué ses chiens à chasser exclusivement le renard.
Il faut qu'ils aient l'occasion de prendre ce renard et de le manger. Parce que le chien, il chasse pour manger, lui. Et donc, on va tout faire pour lui donner le goût de cette chasse du renard. On a des colliers avec des petites électrodes. Et quand les chiens ont tendance à s'intéresser à un chevreuil, tac, tac, ils ont un petit rappel à l'ordre qui les dissuade de continuer.
La chasse se déroule en meute dans des bois denses et peu accessibles.
En vénerie, on chasse souvent avec une trompe de chasse, mais au renard, c'est difficile parce qu'on est dans des endroits sales. C'est plus facile de se promener avec une petite pibole comme ça qu'avec une trompe de chasse.
Voilà, donc extrait de ce reportage pour poursuivre la discussion toujours autour de la chasse, hein, qui d'ailleurs intéresse pas mal les auditeurs. Catherine nous dit « La chasse au renard, prédateur de 10 000 rongeurs par an, est inutile et d'une navrante stupidité. Selon un agent ONF, la disparition d'un certain nombre de renards augmenterait le nombre de petits à chaque portée. » Qu'en pensez-vous?
Oui, en fait, le renard, il compense. Donc, effectivement, si on tue chaque année en France un demi-million de renards, très certainement que ça ne change pas grand-chose à la dynamique de l'espèce. Et d'ailleurs, quand on a déclaré la guerre aux renards pour lutter contre la rage, ça a été totalement inutile.
Ouais.
Des millions de renards ont été tués, même gazés. Et en fait, ça n'a fait qu'accélérer la propagation de la maladie parce que les renards survivantes faisaient plus de jeunes et ces jeunes dispersaient encore plus. Donc, le renard, il est plus fort que nous.
Ouais, donc, il y a une reproduction ultra dynamique. Hein, chez
très dynamique, animal. Effectivement. Oui.
Ouais. Et qui, même malgré effectivement ces chiffres très impressionnants, 500 000 bêtes tuées chaque année, ne laisse pas trop d'inquiétude.
Donc je pense que c'est une des rares espèces pour lesquelles on peut se réjouir finalement parce que elle va bien et on n'a pas trop besoin de se soucier de sa préservation.
Christian nous dit les chasseurs de mon village organisent systématiquement des battues dès qu'un renard leur est signalé sur la commune, même en dehors de l'ouverture de la chasse.
Oui, parce que comme il est nuisible, on peut le tirer 12 mois par année. Ouais. Ouais.
Marie-Sophie nous dit c'est bien joli de faire l'apologie du renard, mais ceux qui commentent une ferme pédagogique dont des volailles, le renard est un nuisible car de plus en plus nombreux, les citadins s'extasiant sur sa présence en ville devraient se poser la question de son manque de nourriture en état naturel, à cause là aussi de la chasse. Jean-Steve Meillat, vous lui répondez ?
Mais je lui réponds que moi, je comprends évidemment sa position et tout nous ramène à cette question du nuisible. Qu'est-ce que c'est que le nuisible ? Être nuisible, c'est créer du tort. Et créer du tort, c'est toujours relatif. Donc évidemment que pour cette personne, le renard est un nuisible. Pour le citadin qui a acquis une maison de vacances avec un beau jardin, si le renard vient mettre ses crottes dans son jardin, il sera nuisible. À l'inverse, pour la personne qui passe son temps et qui a la passion d'observer le renard, de le photographier, évidemment, il n'est pas nuisible. Ce qu'on doit faire, c'est trouver un juste chemin et des techniques, comme on en parlait tout à l'heure, qui sont éthiquement acceptables par rapport à l'animal et ne pas le laisser souffrir. Maintenant, si on doit pratiquer une certaine régulation parce que les dégâts Par exemple, aux volailles sont trop importantes. Moi, je soutiens ce genre de mesures.
Odile nous dit les refuges LPO en France recueillent également les renards, très grosses victimes de la chasse, notamment en Aquitaine. Et puis un autre témoignage d'Hervé qui nous dit, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, il est navrant que les pouvoirs publics classent toujours renards et blaireaux comme nuisibles. À noter que certaines fédérations de chasse se refusent justement à les chasser. C'est le cas dans le Haut-Jura. Vous êtes
alors,
au courant, Julien Perron?
Je l'ai traversé ce matin au TGV, le Haut-Jura, mais je ne sais pas. Mais ouais. Ce serait une bonne nouvelle.
Ouais. François nous dit, comment expliquer dans nos régions du nord de la France les piégeages d'éterrages horribles sous prétexte de nuisibilité, alors qu'éthologiquement il est utile? Depuis des années, des pétitions circulent sans succès dans les Ardennes, et il est souvent même torturé. Je suis révolté. Comment faire en sorte que les politiciens prennent des décisions urgentes? Il y a énormément de messages sur ce thème. Je pense que c'est vraiment un animal qui sensibilise par ça.
Si vous avez cette réaction, qui est aussi mon avis, la meilleure chose que vous pouvez faire, une fois de plus, c'est de soutenir l'ASPAS, qui se bat au niveau juridique, dans beaucoup de départements et au niveau national, justement pour faire évoluer les choses. Mmh. Malheureusement, jusqu'ici, sans succès, parce qu'il y a une volonté politique très claire de que ça ne change pas.
Ouais, Marion nous dit, quand j'étais enfant, mon chien avait pendant un temps un ami renard. Ce dernier l'attendait à l'orée de la forêt. C'est une belle histoire, ça. On ouvrait la porte de la maison. Notre chien allait retrouver le renard et partait tous les deux. Ça nous a beaucoup étonné et fait grand plaisir en se disant secrètement que c'était parce que notre chien avait la couleur d'un renard. Alors ça, c'est fréquent, ça, comme situation?
Il y a beaucoup de jolies histoires à propos du renard et c'est aussi pour ça que...
Il y a toujours un enfant dans l'histoire aussi. Hein.
Souvent, oui. Souvent, c'est vrai. C'est un animal qui ne laisse pas indifférent, qui justement sait s'approcher. Moi, je voudrais profiter de l'émission pour dire garder une certaine distance avec ces renards.
Oui.
Parce que les habituer à la présence humaine, c'est souvent provoquer leur perte. Parce qu'après, ils vont s'approcher de quelqu'un qui n'acceptera pas cette proximité. Mmh. Et malheureusement, souvent, le renard en question finit tué.
Et donc, entre autres, ne pas l'habituer à le nourrir?
Surtout pas.
À être nourri?
Ne pas les nourrir, effectivement, ne pas les faire entrer dans les maisons. Ce sont des animaux sauvages, et ce qui est beau dans les animaux sauvages, c'est le fait que justement ils sont sauvages, justement ils sont insaisissables, justement ils ne sont pas prévisibles. Et lorsqu'on a la chance de vivre une histoire comme celle-ci, ça devient des moments magnifiques.
Ouais. On parlait des blaireaux tout à l'heure, il y a une cohabitation, vous me disiez hors antenne, entre le blaireau, ça fait rire notre ami Drouel, et le renard. Ils cohabitent dans le terrier. Ben oui Fabrice.
Mais moi j'adore les animaux, l'histoire d'animaux, allez-y.
Mais moi aussi ça me fait rire le blaireau.
Alors le renard est un squatteur de terrier de blaireau, donc ils vont effectivement cohabiter. Mm-hmm. Si c'est trop petit, alors l'un va éliminer l'autre, et souvent c'est le renard qui doit partir, parce que le blaireau est un solide gaillard.
C'est ce qu'on dit.
mais parfois ils cohabitent, effectivement.
Allez, qui es-tu renard? La Salamandre, donc la revue des curieux de nature salamandre.net pour vous abonner et découvrir donc ce mois-ci la reproduction et bien d'autres aspects de la biologie de cet animal. Et puis donc sortira en mars chez Delachaux et Nestlé, le renard, dans une nouvelle édition. Jean-Steve Meya, merci beaucoup à tous les deux d'être venus de Suisse pour nous en parler. Fabrice Drouel, au lieu de ricaner bêtement parce qu'on parle du blaireau, de quoi?
Vous n'avez pas, quand vous étiez petit, un cahier avec des photos d'animaux que vous colliez?
Bien sûr.
Ouais, aussi. Bien sûr. Bah, vous avez parlé du renard, moi je vous parlez d'animaux marins, figurez-vous, avec la folle aventure du commandant Cousteau, de la Calypso, voilà. Et notre invité, c'est un écrivain, journaliste, Yves Pacquelet, qui a participé à au moins 20 expéditions avec le commandant Cousteau. Il le connaît comme sa poche, la Calypso aussi, voilà.
Merci Fabrice, ce sera donc après les infos. Merci également à Julien Chabassu, qui a assuré la technique cet après-midi, et Thierry Dupin, la programmation musicale. Voilà, je vous ai tout dit, je vous souhaite un bon après-midi sur France Inter.